Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous retrouverez Florian Delorme et l'émission Culture Monde lundi prochain à 11h. Mais pour l'instant, je vous invite à plonger dans le documentaire biographique. Pendant une heure, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme d'exception et nous suivons la trace de ce qu'il nous a laissé. Bienvenue dans toute une vie. Depuis ses dernières pièces jusqu'à ses discours politiques les plus récents, il ne cesse d'évoquer ce qu'il appelle la crise de l'identité humaine, produit d'une civilisation technique qui a oublié que l'homme n'est pas Dieu, et surtout de déplorer la perte de sens de la responsabilité. Aujourd'hui, Christine Le Cerf et Charles Trout vous proposent le portrait de Vaclav Havel, 1936-2011, c'est toute une vie pour une révolution de velours.
Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Gaspard Paleniček, de l'arrivée des Rolling Stones à Prague?
Je suis pas un énorme fan des Rolling Stones moi-même, mais c'est vrai que je m'en souviens parce que forcément un président qui arrive au pouvoir et dont une des premières décisions est de faire venir un groupe de rock et de les inviter au château, on s'en souvient forcément. Oui.
En attendant Václav Havel, Christine Le Cerf, Charles Trout, Alain Joubert.
Un matin, Václav est sorti de sa chambre en pyjama sans se douter que quelqu'un allait le photographier. Il a pris une guitare basse et s'est mis à écarter les jambes pour prendre la pose d'une rockstar. J'ai encore cette photo quelque part à la maison. Václav est devant un miroir et essaie de s'imaginer de quoi il aurait l'air en rockstar.
Chers concitoyens, merci pour votre accueil chaleureux. En tant que membre d'honneur non musicien du groupe Plastic People, j'ai reçu la tâche de baptiser ce nouveau disque que le monde entier attendait depuis longtemps. Mais je n'aime pas arroser les disques car ça les abîme et ça gâche du champagne. Alors au lieu de l'arroser, je vais boire un coup. Ça vous va?
Je le connaissais déjà un peu de vue depuis les années 60. Je l'avais aperçu au théâtre Viola. Puis on se rapprochait de sa maison de campagne de Hradeček. Et plus on se demandait avec ma femme de quoi Havel pouvait bien avoir l'air. Marie me disait, je l'imagine comme un grand type brun, sauvage, vu ce qu'il fait. Mais c'est un petit blondinet sympa qui est arrivé. On s'attendait à quelqu'un d'autre, il en fallait pour oser se quereller avec le bolchevisme et avec tout le système.
N'oublions pas qu'au début de l'année, 89, il est en prison. À la fin de l'année, il est président au château. Bon. Ça, c'est un miracle. Vous savez, il y a des hommes politiques qui séduisent par la force, je déclare, suivez-moi, je suis le chef. Lui, c'était le contraire. Regardez comme je suis faible et vulnérable, et néanmoins ce que j'ai traversé. Donc il y a une force intérieure qui est beaucoup plus importante. Et je crois que c'est ça, c'est ce décalage entre l'apparence, la vulnérabilité, le parcours, et aussi l'absence d'apparat, de prétention, etc. Et la force intérieure que chacun sentait, et que chacun savait aussi à travers ce qu'il avait traversé. Je crois que ça, effectivement.
Non, ce n'était pas pour cette raison.
Alors pourquoi est-ce que tu n'écris rien? Tu as une crise de création et tu n'as plus d'idées.
C'est difficile à dire. C'est l'époque et tout. On a le sentiment que rien n'a un sens, que c'est inutile.
Ferdinand, je t'arrête tout de suite. J'ai l'impression que l'époque, comme la brasserie, sont pour toi des prétextes.
Il est temps de te reprendre.
Il est temps de régler tes problèmes avec Eva.
Il est temps de fonder une famille.
De donner une âme à ton gîte.
D'apprendre à planifier tes journées.
Que tu cesses de traîner dans les bistrots.
Que tu retournes au sauna.
Bref, il est temps que ton existence redevienne ordonnée, saine et raisonnable.
Il faut dire que Václav Havel, c'est un personnage à multiples facettes. C'est un homme qui aime les femmes. C'est un homme très sociable, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très fragile. Et le doute l'accompagne tout au long de sa vie. C'est toujours quelqu'un qui cherche la vérité et qui la cherche dans différentes voies. Il fait le théâtre. Ses pièces sont basées sur le rire, sur les situations grotesques, mais il fait le théâtre sérieusement. Donc c'est quelqu'un qui a le sens de la dérision, mais qui prend la vie terriblement au sérieux.
Avec les années, on me considère comme une sorte d'homme politique, pourtant je n'ai jamais voulu l'être. Je me mêle de philosophie, mais qui pourrait sérieusement me considérer comme un philosophe? Je touche même à la musique, mais quand je me mets à chanter, on se moque de moi. Et comme auteur dramatique, je me trouve également assez suspect.
Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en rond.
Ivan Havel, c'est vous sur cette photo?
Ivan Havel, c'est vous sur cette photo?
Ah non.
Oui.
Abelon, il y a assez...
J'avais 4 ans à peu près. Et c'est qui là?
Ah,
ça c'est le grand-père maternel. Alors son nom c'était Vavrečka. Et là, c'est Václav. C'est votre frère?
Ah non.
Oui, oui.
Byl, no, to už, když jsme byli tak jako v těch...
On avait 12, 13 ou 14 ans.
V takovém jednočském věku.
On était adolescent.
On byl takový zavalitější.
Il était plutôt gros, on l'appelait le bousier dans notre groupe de scouts. On pratiquait à l'époque une espèce de scoutisme illégal, car c'était après 1948.
Les livres, la culture comptaient beaucoup dans votre famille. Votre grand-père a écrivé des traités de philosophie, votre père écrit ses mémoires, votre mère tient un journal.
Les livres et tout ce qui concerne la culture en général, les tableaux, les arts plastiques. Notre mère dessinait. Elle faisait des dessins à partir des lettres de l'alphabet. On les accrochait ensuite au mur. Une petite scène accompagnait chaque lettre. C'était des collages avant l'heure, comme ceux de Jiří Kolář.
Jan Roubaix, est-ce qu'on pourrait dire que Václav Havel est né dans le velours?
Oh, certainement, il est né dans le velours, il est né en 1936 dans une famille extrêmement aisée. C'est cette bourgeoisie libérale qui émerge à partir des années 20, qui est extrêmement positive dans la vision de l'avenir de la Tchécoslovaquie, qui est entreprenante, mais en même temps intellectuelle. Son grand-père a été déjà, on pourrait dire, bâtisseur, parce qu'il est architecte, mais il conçoit la maison de Lucerna, par exemple, cet immense immeuble ou complexe culturel qui se trouve à la place Venceslas, donc en plein centre de Prague. Puis son père, il conçoit dans les environs immédiats de Prague, Barrandov, le restaurant, des terrasses, une piscine. Donc c'est un centre de Gotha tchèque de la fin des années 30. Et son oncle, l'oncle de Václav Havel, le frère de son père, il crée des studios cinématographiques. La cinématographie tchécoslovaque joue un rôle extrêmement important à l'époque.
Ivan Havel, nous sommes ici dans l'appartement des Havel. On est ici dans une vaste pièce avec des centaines de livres dans les bibliothèques, sur les sofas, sur les tables. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à votre famille en 1948?
No, tak my jsme tou dobou jsme dokonce obývali dvě patra v tomto domě.
En 1948, nous occupions deux étages dans cet immeuble ici. Là où nous nous trouvons, c'était l'étage des enfants, où il y avait aussi en partie les affaires de l'oncle Miloš. Nos parents vivaient à un étage plus bas. Là, ils organisaient toutes sortes d'événements, des dîners, etc. Puis est arrivé février 1948. On a promulgué des lois qui interdisaient d'habiter dans des appartements trop grands. Et puis a été lancée la fameuse Action B, qui signifiait qu'il fallait expulser la prétendue bourgeoisie hors de Prague. Et comme nous faisions partie de cette catégorie, on nous a demandé de quitter Prague pour nous établir dans un village près de la frontière.
À la différence de mes camarades, j'étais un fils de riche. J'avais même une gouvernante. Je sentais qu'entre le milieu où je vivais et moi se dressait un mur invisible. Et que derrière ce mur, j'étais seul, perdu et ridicule. Bref, je me sentais exclu et humilié.
Après 1948, lors de coup d'État communiste, évidemment, il perd tout espoir de pouvoir continuer dans la voie de sa famille, bien entendu, parce que il est considéré comme un enfant de millionnaire, les biens de la famille sont confisqués et ses origines, évidemment, l'empêchent de faire une carrière universitaire comme il l'aurait souhaité.
Mon regard est un regard d'en bas, un regard de l'extérieur, un regard formé par l'expérience de l'absurde.
Anna Fraimanova, les livres, les mots, l'écriture, c'était une chose importante pour Havel et pour tous ses amis.
La création libre était impossible à l'époque. C'est grâce à son milieu familial que Václav Havel a été en mesure de découvrir les auteurs qui l'intéressaient et qui étaient condamnés au silence. C'était surtout des poètes, comme Jaroslav Seifert ou Vladimir Holan, des gens qui avaient créé une œuvre formidable, mais dont la génération de Havel ne pouvait rien savoir dans les années 50. Donc, dès sa jeunesse, Václav Havel a suivi sa propre voie. Certes, il ne pouvait pas faire d'études, mais il se formait tout seul. Il savait où trouver ses sources, il savait où se documenter. Dès sa jeunesse, il s'est comporté comme un homme libre.
À cette époque, j'écrivais régulièrement de la poésie, qui heureusement n'a jamais été publiée. Le monde de la littérature officielle ne m'intéressait pas et je m'en moquais. C'était 100 fois plus important d'être au café Slavia avec mes amis à la table de Jiří Kolář.
Jan Roubaix, quel serait, selon vous, le premier coup d'éclat de Václav Havel?
Je crois que c'est la conférence sur la jeune littérature qui est organisée par l'Union des écrivains en 1956 à Dobříš, c'est pas loin de Prague, c'est un château qui appartient à l'Union des écrivains. On est censé discuter des perspectives pour les jeunes écrivains en Tchécoslovaquie. C'est l'année du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est l'année des événements en Pologne, c'est l'année des événements en Hongrie. Et alors, à ce moment-là, en Tchécoslovaquie, il n'y a pas vraiment de libéralisation. Et Václav Havel prend la parole et il va s'insurger contre l'institution littéraire officielle. Et Václav Havel, complètement inconnu, un jeune homme de 20 ans, fait ainsi dire scandale. On sent que ce garçon peut être menaçant. D'ailleurs, je crois qu'il y a un écrivain qui a dit « Attention à celui-là, parce qu'il peut se révéler dangereux. »
Les années 60 en Tchécoslovaquie, c'est bien connu, c'est une période de dégel politique, très progressif. C'est la société civile qui fait ce dégel. C'est ça qui est important et qui est intéressant. C'est aussi, bien sûr, le moment où ouvrent un certain nombre de clubs, de musique, des cafés littéraires où émerge une poésie beatnik tchèque. Et petit à petit, on peut se permettre de parler de plus en plus ouvertement. Alors, pas complètement ouvertement, mais on peut lancer des sous-entendus. Et en fait, la population trouve des sous-entendus partout, même là où il n'y en a pas forcément. D'où le rôle essentiel des théâtres. Parce que c'est au théâtre qu'on peut laisser entendre le plus de choses sans forcément les dire.
J'ai toujours écrit mes pièces lentement et difficilement. Je les retravaillais, les recomposais, et je désespérais. Je ne suis certainement pas de ceux qui écrivent avec facilité.
Jean-Gaspard Paleniček, dans cette effervescence, Václav Havel décrit ses 8 années d'activité multiple au théâtre de la Balustrade comme un joyeux étourdissement permanent.
Ben, je veux bien le croire, d'autant plus qu'il est arrivé au théâtre un peu par la porte arrière, d'abord comme accessoiriste, avant de se mettre à écrire. Il n'avait d'ailleurs pas du tout prévu d'écrire de théâtre, puisqu'il a d'abord commencé par de la poésie. Il travaille au théâtre de la Balustrade avec Jan Grossmann, qui est le dramaturge au sens allemand de ce théâtre, et qui vraiment met en avant le théâtre de Havel, qui devient l'auteur phare du théâtre. Il commence par quelques petites pièces qu'il écrit en commun avec Ivan Vyskočil, et son premier grand succès, c'est La fête en plein air en 63, suivi du rapport dont vous êtes l'objet en 65, et c'est cette seconde pièce qui vraiment l'installe comme un auteur incontournable.
Slovní zásoba Pirbe totiž budována podle jednoduchého a zcela logického principu. Čím obecnější význam, tím kratší slovo. Tak například dosud nejobecnější známý pojem, totiž cokoliv se v Ptidepe řekne kh, tedy slovem o pouhých 2 písmenách. Existuje slovo sice ještě kratší, totiž f, to však nenese dosud žádný význam.
C'est vrai que les pièces qu'il écrit dans les années 60 sont proches du théâtre de l'absurde, mais il s'agit d'un théâtre de l'absurde centre-européen, assez différent de ce qu'on connaît de Beckett ou de Ionesco, à la fois avec beaucoup d'humour et à la fois, bien sûr, avec une description légèrement détournée, mais à peine, de la vie quotidienne des gens à l'époque. C'est très connu dans le rapport dont vous êtes l'objet, Havel crée une langue fictive qui parodie ou qui est la caricature de toute langue administrative, qui renvoie à la fois à Kafka, à la fois à ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos administrations, quels que soient les pays. Et c'était extrêmement parlant pour, bien sûr, pour la population à l'époque.
Xavier Galmiche, un ami de Václav Havel, Jerzy Grucha, disait du dramaturge, il écoutait la langue.
Alors effectivement, il y a dans le théâtre de Havel un jeu qu'on peut comparer quand même à celui de Ionesco, c'est-à-dire on va exploiter le caractère phraséologique, c'est-à-dire les formules toutes faites, les expressions idiomatiques, en tirant le côté cocasse et en le présentant comme une sorte de préfiguration de l'absurdité de l'existence. On peut dire que pour Havel, le rire est une arme, mais c'est cette arme qui fait tout le temps osciller entre le gag, il a écrit un beau texte sur l'anatomie du gag, et le pathétique, hein, ce côté finalement extrêmement cisaillant de quelqu'un qui voit que l'existence tourne à sa confusion.
Havel, záhradní slavnost.
Záhradní slavnost. Je to, že víme, že záhradovacká služba je přežitě minulosti. Úlohu přesto by upadal do liberálního extremismu ten, kdo by tyto dobově omezené pozitivní prvky neviděl v perspektivě pozdějšího vývoje zahajovacké služby. A kdo by za jejich možná subjektivně pozitivním záměrem neviděl jejich určitě objektivně negativní dopad, způsobený tím, že v důsledku nezdravé izolace celého úřadu byly nekriticky přeceněny některé pozitivní prvky práce zahajovacké služby a zároveň jednotlivé zvýšení některé negativní prvky práce krajské úřadu už nemůžu.
Andrej Škrob, est-ce que c'est vrai que vous battiez toujours Václav Havel aux échecs?
No ne vždycky.
No, pas toujours.
Ale jednou jsme...
Mais c'est vrai qu'une fois, nous avons joué ensemble aux échecs, car Václav avait appris à jouer en prison. Je ne sais pas s'il savait jouer avant cela.
Je parlais des échecs parce que Jan Grossmann a dit du théâtre de Václav Havel que c'était un théâtre géométrique. Et que Václav Havel dessinait toujours des figures, des schémas, à la fois pour ses pièces de théâtre, mais aussi pour ses discours politiques.
Proti mnoha jiným autorům se Havlovy hry.
Contrairement à d'autres dramaturges, les pièces de Václav Havel ont toujours été parfaitement préparées pour leur mise en scène. Il demandait au metteur en scène de ne pas intervenir dans le système de construction de ces pièces. Il exigeait même qu'on joue ces pièces exactement comme elles avaient été écrites. Pas de changement dans le texte, pas de stylisation. Il avait un sens incroyable du rythme. Ce qu'il a été capable d'introduire dans ses pièces, c'était surtout un rythme. C'était intéressant, encore avant la Révolution, quand il invitait quelques amis et j'en faisais partie, et qu'il lisait ses propres pièces. Il enchantait ses auditeurs, notamment par le rythme de son texte.
Notre théâtre veut provoquer le public, l'interpeller, être plus exigeant avec lui. Il veut stimuler l'imagination, obliger à réfléchir, afin que le public en retienne quelque chose et qu'il n'oublie pas la pièce une fois rentré chez lui. Bref, qu'il reste quelque chose dans la tête des spectateurs.
À l'approche des événements du printemps de Prague de 1968, c'est l'autre génération d'écrivains qui apparaît comme moteur de changement, qui a 10 ans de plus que Václav Havel, qui au départ est très fidèle à la ligne du parti, mais qui devient rebelle à partir du début des années 60.
Et qui croit à une possibilité d'un socialisme à visage humain.
Tout à fait. Et il faut attendre quelques mois, notamment janvier-février 1968, pour voir triompher cette tendance réformiste, parce que à ce moment-là, la vieille direction des partis communistes va tomber et va être remplacée par de nouvelles personnalités qui sont beaucoup plus libérales, à commencer par Alexandre Dubček.
Alors on peut dire quand même, Jan Rubeš, que Václav Havel est très sceptique. Il a cette phrase assez cruelle, « Ils veulent l'air frais, mais ont peur des courants d'air. »
Sceptique, effectivement, sur la possibilité de réformer le socialisme.
Hier après-midi, plusieurs milliers de jeunes gens ont manifesté sur la place Venceslas. Immédiatement, des chars soviétiques ont fait mouvement pour dégager la place. Mais les jeunes ont refusé de bouger. Alors, les soviétiques ont tiré la mitrailleuse. On ignore s'il y a des victimes.
Dana Niemcová, quand avez-vous rencontré Václav Havel pour la première fois?
Já si to asi přesně nepamatuju, ale muselo to být někdy v 60.
Je ne m'en souviens pas précisément, mais ça devait être vers le milieu des années 60.
Běžně jsme se znali, protože
nous connaissions un peu parce que mon mari était, pour ainsi dire, un parent éloigné des frères Havel.
Bratří Havlových. Tak samozřejmě každý ten stát.
Bien entendu, l'État totalitaire tirait parti du fait qu'il nous tenait sous sa dépendance et qu'il pouvait avoir accès à notre vie civile comme à notre vie intime.
Ať už občanského nebo i intimního života. Například jste nevěděla,
autrement dit, vous pouviez vous attendre à ce que votre téléphone soit sur écoute.
Pokud jste měla
si vous aviez un permis de conduire, il vous le confisquait pour que vous ne puissiez pas vous déplacer librement.
Pokud jste měla nějaké
si vous aviez une situation ou un emploi, en tant que dissident, vous pouviez également vous attendre à perdre cet emploi et finir tout en bas de l'échelon social. Il y avait aussi des fouilles à domicile régulières où chaque papier était confisqué comme un trophée.
Byl kořist.
Dana Niemcová, la peur est un thème central dans le théâtre de Václav Havel. Est-ce que vous diriez qu'il a à la fois décrit ce sentiment et qu'en même temps, il a libéré les gens de ce sentiment de la peur?
Je suis convaincue qu'il était capable de réprimer la peur en tant que sentiment ou de la sublimer en résistance. Il a d'ailleurs fourni dans ses pièces une analyse précise de la situation et des moyens utilisés pour intimider. Ça avait beau être insidieux, c'était omniprésent. Mais nous faisions comme si de rien n'était, car nous avions le droit pour nous.
De quoi les gens ont-ils peur ? Des procès ? De la torture ? De perdre leurs biens ? De la déportation ? Des exécutions ? Bien sûr que non.
Jacques Roupnik, en 1975, vous parvient un samizdat d'une importance historique.
Oui, au début de l'été 75, je reçois de Prague un texte assez long et touffu qui est intitulé « Lettre à Gustave Husák »,« Lettre au président Gustave Husák ». Et très franchement, quand on voit un texte intitulé comme ça, on pense à une pétition, ça va être encore, je vais encore devoir traduire une énième pétition de droits de l'homme. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Et je crois que jamais je n'avais vu les mécanismes de ce qu'on a appelé la normalisation analysés avec autant de clarté, autant de précision. C'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin, on tient un penseur politique, quelqu'un qui a compris, enfin, qui est capable de communiquer ce qui s'est passé après 68, c'est-à-dire comment expliquer qu'il y a eu un tel sursaut en 68 de la société et que ce sursaut ait continué après l'invasion. Car d'une certaine façon, le sursaut a redoublé, s'est radicalisé après l'invasion soviétique. Et comment ça a été brisé à partir de 69. Voilà. Il a non seulement donné les clés de la situation tchécoslovaque, mais alors il les a formulées de telle façon que ça en devenait une réflexion plus générale sur le pouvoir, sur les mécanismes de la peur, et il a rendu universelle une expérience particulière. Ça, c'est le talent d'un grand écrivain, d'un grand penseur politique.
Ce système de pression ne pourrait fonctionner avec succès sans sa base naturelle, sans la puissante et omniprésente police d'État. Cette force qui lui assure l'universalité, la complexité et le pouvoir. Cette araignée effrayante a tissé sur toute la société une toile invisible. En elle s'interpénètrent finalement tous les fils de la peur.
Je me souviens, le poète Prokop Voskovets me racontait l'anecdote suivante. Il me disait que à la toute fin des années 60, en 69, donc une fois que la normalisation se mettait en place déjà, il était dans une auberge avec Václav Havel et d'autres amis, et à un moment, Havel se tourne vers la tablée et leur dit « Écoutez, j'ai l'impression que la table d'à côté, c'est mon flic ». Donc si ça vous dérange pas, je vais lui proposer de nous rejoindre parce que c'est inutile qu'il soit à côté pour nous écouter, il n'a qu'à se joindre à nous, ce sera plus simple pour lui. Et c'est une façon bien sûr de le démasquer et de démonter la surveillance. Le flic n'a pas du tout été désarçonné, il s'est assis à leur table, il s'est mis à discuter avec eux et leur a dit ceci. Les gens du régime, les gens en haut sont idiots parce que à force de vous priver de vos emplois, le résultat ce sera que vous allez vous réunir dans vos appartements. Et ce sera beaucoup plus dur pour nous de vous surveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que des gens, parfois même d'opinions politiques divergentes, qui n'auraient pas forcément eu parole commune dans les années 60, se sont retrouvés à se réunir, à discuter, à organiser des séminaires clandestins, des séminaires de philosophie, des spectacles de théâtre, des expositions, tout ça en appartement. Ravel lui-même organise, par exemple, des concerts, des Plastic People, entre autres, chez lui, à sa maison de campagne. Et c'est vraiment là une vie parallèle, une vie... La volonté de créer une vie culturelle parallèle avec les moyens du bord.
Andrei Krob, est-ce que vous avez regretté d'être le voisin de Václav Havel à Radrecek ? Parce que ça a eu des conséquences.
Nemohl jsem toho litovat, protože jsem byl původcem toho, že se stal mým sousedem.
Je ne pouvais pas le regretter, car j'étais moi-même à l'origine de notre voisinage. Nous avions déjà travaillé ensemble, lui en tant qu'auteur et moi en tant que machiniste qui s'occupe de la technique. Mais il se peut bien que peu de gens aient vécu un voisinage aussi merveilleux que moi et ma femme, Anna Freimanova, avec Václav Havel et sa femme, Olga Havlova. Ne parlons donc pas des conséquences, et même, au contraire, quand a commencé la difficile période de l'occupation, beaucoup de gens se sont perdus. Mais nous, nous sommes devenus une sorte d'îlot, des voisins qui se recontactaient, qui s'entraidaient, que parfois les gens les plus proches évitaient. Mais avec Václav, nous étions dans le même bateau. Lui, c'était le capitaine et le timonier, tandis que moi, j'étais le rameur dans la cale. J'ai découvert le texte qu'il avait adapté de l'opéra de Katsu. J'ai beaucoup aimé cette pièce, écrite pour un théâtre d'avant-garde de Prague. Mais l'occupation soviétique avait mis fin à ce projet. La pièce était restée dans un tiroir. Václav Havel m'a alors donné son accord pour que j'essaie de la mettre en scène. À l'automne 1973, on a commencé les répétitions dans des appartements, des maisons de campagne. Et le 1er novembre 1975, on a joué la première dans une auberge des environs de Prague. Cela a été la première et la dernière représentation. C'était un exploit en cette période de normalisation. Nous étions tous hautement surveillés. Cela n'a été possible que grâce à ce petit groupe de gens qui aimaient Havel et qui voulaient jouer sa pièce coûte que coûte. Le régime croyait à une action subversive et ne pouvait pas imaginer qu'un groupe de machinistes et de costumières mette en scène une pièce de Havel. Pourtant, c'était aussi simple que ça. La police a eu beau chercher partout, elle n'a trouvé qu'une poignée d'enthousiastes et d'admirateurs de Havel. Elle a annulé les sanctions prévues. Mais le pouvoir a mis longtemps à admettre qu'il n'y avait aucun impérialisme dans le coup, même pas la CIA.
Anna Freimanova, vous aussi, vous étiez là.
Václav Havel avait invité 150 à 200 amis à cette représentation. Et la grande majorité d'entre eux est devenue ensuite signataire de la charte 77 et proche collaborateur de Havel. On répète souvent qu'il s'agissait là du premier rassemblement des chartistes. Mais nous, à l'époque, on ne pouvait pas encore le savoir.
Je connaissais un peu Ivan Yerush. Il avait créé un mouvement de musique underground. Un soir, il m'a fait écouter des enregistrements de Plastic People et de quelques autres groupes sur son magnétophone Kataru. Je ne suis pas spécialiste de rock, mais j'ai tout de suite compris que la vérité se trouvait du côté de ces jeunes, malgré leurs cheveux longs et leurs mots vulgaires. Leur musique parlait de l'angoisse métaphysique et du désir de salut.
En 1976, Dana Nemtsova, Václav Havel prend la défense d'un groupe de musique rock, les Plastic People. Pourquoi et qu'est-ce que représentait pour Václav Havel cette énergie du rock et du rock de Plastic People?
Tam totiž šlo o tu principiální záležitost. Persekuce.
C'était une question de principe. Le régime, soi-disant normalisateur, persécutait tout ce qui était créatif, tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Cela concernait par exemple les pièces de Václav Havel qui ne pouvaient pas être montées, mais également les livres écrits par ses amis, écrivains ou poètes qui ne pouvaient pas être publiés. Et aussi la musique. La défense de Václav Havel partait donc du besoin fondamental de défendre la liberté de création dans son ensemble, la liberté de s'exprimer à travers l'art.
Mais c'est quand même bien à la suite du procès qui a été fait à Plastic People
que la charte 77 s'est constituée.
Ah non, to bylo vlastně na chodbách soudu, který potom rozdal ty tresty.
Oui, cela s'est passé dans les couloirs du tribunal qui ensuite a rendu son jugement. Nous étions dans les couloirs parce que nous n'avions pas été admis dans la salle d'audience. C'est là que divers défenseurs des droits civiques se sont réunis. Et c'est là qu'est apparue l'idée qui s'est ensuite cristallisée dans la charte 77.
Par exemple, professeur Jiří Hájek, notre bývalý ministre.
Il y avait là, par exemple, Jiří Hájek, notre ancien ministre des Affaires étrangères en 68, qui a rappelé, et d'autres le savaient aussi, que notre État s'était engagé à respecter la Charte des droits de l'homme telle qu'édictée par le traité d'Helsinki.
K helsinským dohodám o plnění lidských práv a svobod. A že my jako občani vlastně za ten stát máme taky.
Et que nous, en tant que citoyens, nous étions responsables de l'État. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, nous remplissions nos devoirs civiques en dénonçant les injustices que cet État commettait à l'encontre d'une partie de la population.
Kdy jsme neměli žádnou moc politickou, žádnou moc publikovat.
Nous n'avions aucun pouvoir politique, ni aucun moyen de publier.
To byl apel k té společnosti.
C'était un appel à la société, à la citoyenneté et à la responsabilité collective que la charte 77 a ensuite essayé d'articuler. La charte 77 est une communauté libre, non formelle et ouverte de personnes réunies pour faire respecter dans notre pays et partout dans le monde, des droits de l'homme et du citoyen. En tant que signataire de ce manifeste, nous mandatons le professeur Jan Patočka, Václav Havel et le professeur Jiří Hájek comme porte-parole de la charte 77, les 257 signataires tchécoslovaques.
La charte 77, apparaît effectivement au tout début de l'année 77, d'où son nom. Elle était en gestation quelque temps auparavant. Cette gestation est intéressante puisqu'elle permet la rencontre entre le milieu de la musique rock underground et de l'autre côté, le milieu, disons, intellectuel, les philosophes comme Jan Patočka, qui normalement ne communiquaient pas. Et Václav Havel, lui, se trouvait à l'intersection des deux milieux. Et il a, en quelque sorte, compris que la persécution de ce groupe rock posait une question plus large. Et autour de cela, il a commencé à rassembler tous les milieux oppositionnels. Et ça a donné ensuite le texte de la Charte 77, qui n'est pas extraordinaire en tant que tel, mais qui est extraordinaire parce qu'il a été présenté à ce moment-là, surprise totale pour le pouvoir, pour le reste de la société, et c'est pour ça qu'ils se sont déchaînés autant contre Havel et contre les premiers porte-parole de la charte, hein. Je rappelle Patočka quand même, mort après un interrogatoire prolongé à la police de plusieurs heures.
Après 1977, après la charte, ils ont créé une collection samizdat, c'est-à-dire des livres qui ne peuvent pas être publiés officiellement, qu'ils transcrivent avec des copies dactylographiées, avec des papiers carbone, ils les relient et puis ils essayent de les diffuser pour que ces manuscrits puissent vivre. Et ils vont publier cette édition, cette collection s'appelle Edice Expedice. Ils vont publier ainsi, transcrire, publier, diffuser plus de 200 ouvrages qui n'ont aucun espoir de voir le jour dans une maison d'édition officielle. Et lorsque Václav Havel va être interrogé, emprisonné en détention préventive, c'est Olga qui va reprendre le flambeau et qui va continuer la diffusion, l'édition de cette collection de livres plus ou moins impubliables dans le contexte éditorial tchécoslovaque de l'époque. Il a été plusieurs fois arrêté. Il a été 4 fois arrêté. Il a été arrêté au lendemain de la diffusion de la charte 77. Il a été arrêté ensuite une fois de plus, mais sa période la plus longue passée en prison date de 1979 jusqu'à 1983. Et au cours de ces années-là, qui est l'apogée de la répression, la seule activité qui lui est autorisée, je pense, sur le plan intellectuel, c'est d'écrire une lettre par semaine à sa femme. Olga, sa femme, donne la possibilité à son frère, à frère de Václav Havel, Ivan Havel, et à quelques amis, de lui envoyer des lettres, ce qui permet à Václav Havel d'avoir des nouvelles, pour ainsi dire, de l'extérieur, sous la signature de sa femme.
Le 4 juin 1979. Chère Olga, apparemment les astrologues avaient raison en disant que l'été serait chaud et en me prédisant pour cette année un nouvel emprisonnement. Ici, il fait effectivement très chaud, c'est une sorte de sauna permanent. Je ne prends pas mon emprisonnement actuel au tragique, comme en 77, mais pas non plus comme une plaisanterie, comme celui de l'année dernière. Je le considère plutôt comme une fatalité, quelque chose qui m'était destiné de toute éternité. Comme si ce troisième essai, après 2 tentatives un peu mitigées, aboutissait enfin à l'inévitable, à ce vers quoi je me dirigeais depuis longtemps. Ton Václav qui t'aime. Le 31 juillet 1982. Chère Olga, l'identité humaine n'est donc pas un simple lieu de séjour confortable, mais une interrogation permanente. Comment être et comment être là? Qui sait si le choc que j'ai subi n'était pas commandé par le destin? Je t'embrasse, ton Vachek.
Apparaît ainsi Václav Havel comme quelqu'un que je définirais comme un croyant athée, quelqu'un qui croit à une spiritualité supérieure. C'est l'être qui commence comme une sorte de chronique de la vie en prison, bien que autocensuré et censuré, parce que il est évident que Havel ne peut pas parler ouvertement des conditions d'emprisonnement, vont se transformer progressivement en essais sur la liberté, sur la philosophie, sur l'existence et sur certains aspects métaphysiques de la vie quotidienne.
Au moment où j'écris, notre régime est ébranlé par un texte qui s'intitule « Quelques phrases ». Oui, dans le système sous lequel je vis, la parole peut faire trembler tous les appareils du pouvoir. Un mot peut y avoir plus de force que 10 divisions armées.
Vladimir Hansel, vous avez été aux côtés de Václav Havel dans cette période de transition pré-révolutionnaire. Quelle était l'ambiance et comment se sentait Václav Havel aux portes du pouvoir?
To byla samozřejmě zvláštní doba, která narůstala postupně měsíc po měsíci.
C'était bien sûr une époque particulière, qui mois après mois allait en s'intensifiant. Le grand tournant a eu lieu en janvier 1989, durant ce qu'on a appelé la semaine Jan Palach, en mémoire de l'étudiant qui s'était immolé en 1968. Václav Havel a été condamné à 9 mois de prison, qui ont été ensuite réduits à 8. Finalement, il a été relâché à mi-peine en mai 1989. Une fois libéré, Havel fut très heureux de découvrir combien de personnes avaient défendu sa cause. Mais il s'est aussi dit qu'il y avait là un potentiel dont il fallait profiter. Il percevait là un changement dont il voulait tirer profit. C'est pourquoi, en quelques jours, une semaine à peine après avoir été libéré de prison, il s'est mis à écrire la pétition, quelques phrases, qui sera signée par un grand nombre de personnalités connues, comme la chanteuse populaire Anna Sakharova, par exemple, ou par des gens qui travaillaient pour la télévision étatisée. Il n'y avait pas d'autre télévision que celle de l'État. En novembre, nous avions atteint les 40 000 signatures.
Il y avait là des gens aux professions ordinaires, aux côtés d'acteurs et de chanteurs. Un détail à ce propos, on avait l'habitude de téléphoner à la radio Free Europe la liste des signataires. Je collaborais alors déjà beaucoup avec Havel. Je téléphonais depuis son poste qui était sur écoute. Et c'était Havel qui établissait l'ordre dans lequel les noms devaient être lus. Il avait un système digne d'un vrai dramaturge. En début de liste, il devait y avoir un nom connu, d'acteur, de chanteur ou d'artiste, puis devait suivre un conducteur de tracteur, par exemple, puis de nouveau un écrivain, puis une caissière de supermarché. C'est lui qui établissait l'ordre et il tenait à ce que l'ordre soit respecté. Après quoi, il écoutait l'émission. Et si par hasard l'ordre avait été changé, il se fâchait fort et me demandait que lors du prochain appel, on respecte l'ordre indiqué. Ceci juste pour illustrer combien la situation devenait de plus en plus intense. Il se passait de plus en plus de choses dont Václav Havel était devenu en quelque sorte le centre.
Un slogan qui résumait ça pendant la révolution de Velours. Lui pour nous pendant 20 ans, nous pour lui pendant 2 semaines. Donc en gros, ceux qui avaient manifesté pendant 2 semaines avec Havel au château, Havel au château, c'est parce qu'il y avait eu lui pour nous pendant 20 ans.
Il me revient souvent l'image de balcon à la place Venceslas d'une maison d'édition où en novembre 1989 était Václav Havel à côté de Alexander Dubček. Les deux protagonistes de changement espérés en Tchécoslovaquie.
Et puis, vous savez, quand on s'engage comme lui dans la politique, quand on fait de la prison pendant de longues années, on accumule dans la société un capital de confiance. Ce n'est pas un capital politique au sens où nos hommes politiques pourraient en parler. Non, lui, il a accumulé un capital de confiance alors qu'il n'avait pas voix au chapitre, alors qu'il était exclu de la scène. Et précisément parce qu'il était en prison, muselé, exclu, mais que ces textes circulaient, que ces textes étaient diffusés à la radio, des radios occidentales. Voilà.
Ces trompettes saluent l'entrée de Václav Havel dans la salle Vladislav du château de Prague, où il y a 500 ans étaient couronnés les rois. C'est le nouveau président que l'on salue ainsi. Quelques minutes plus tôt, les 323 députés présents l'avait élu à l'unanimité et à main levée, pas un bras n'a manqué.
Atmir dal zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou.
Est-ce que pour vous, l'arrivée de Václav Havel à la présidence de cette république a été comme un rêve qui s'est réalisé?
Myslím, že ve svých snech jsme neměli tak bujnou fantazii, že jsme s tím opravdu nepočítali.
Je crois que nous n'y pensions pas, même dans nos rêves les plus fous, nous ne l'envisageions pas. Ça nous est tombé dessus. Ce régime effondré qui soudainement gisait à terre nous disait, puisque vous nous avez si longtemps critiqué, eh bien, allez-y maintenant, faites quelque chose. Je pense que c'est comme ça que Václav l'a lui-même compris.
Milí spoluobčané,
40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž.
Je me souviens très bien de son discours de Nouvel An. En 1989, il est président depuis trois jours. Il commence en disant, vous avez entendu pendant des années dire que notre pays fleurit et que nous vivons dans le meilleur des mondes. Or, je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai et que tout est à construire et je ne vais pas vous mentir. Donc, l'absence de langue de bois est la faculté de nommer les choses, de concentrer la vérité dans quelques phrases. Je crois que c'est un atout qu'aucun politique tchécoslovaque, tchèque, ni avant, ni après, n'aura
atteint.
Vladimir Hanzel, vous étiez secrétaire, donc vous pouviez observer beaucoup de choses à côté de Václav Havel. Quel rôle jouait le langage, les mots?
Un rôle important. Avant cela, il avait écrit des essais et des articles, mais une fois président, il écrivait des discours qu'il rédigeait entièrement lui-même, à la différence d'autres présidents qui ont des équipes pour cela et qui se limitent à lire des textes écrits par d'autres. Lui refusait de lire un texte écrit d'une autre main. Il tenait à l'écrire lui-même. À ce titre, il a introduit dans le tchèque courant des mots que l'on n'utilisait plus trop à l'époque, des termes un peu archaïsants. L'adverbe « néanmoins », par exemple, que tout le monde utilise fréquemment aujourd'hui, c'est lui qui l'a lancé. Ou l'adverbe de négation « point ». Il avait des mots à lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens reprennent ces mots-là sans se rendre compte qu'ils ne font que répéter ce qu'ils disaient et qu'il s'agit de mots réintroduits dans la langue tchèque par Václav Havel. Il faut se rappeler que la langue avait été considérablement appauvrie sous le régime précédent. La langue avait cessé d'être raffinée, hormis quelques exceptions comme Bohourin Rabal. Sinon, l'homme de la rue écrivait dans une langue simple, primitive. Havel prenait plaisir à user d'une langue plus soutenue et à inclure des mots peu fréquents dans ses discours. Le mot « sensé », voilà encore un mot typique de Havel. Bref, oui, il accordait une très grande importance à la langue.
Personne ne détient la formule du bonheur humain, et personne ne la connaît. Mais il y a suffisamment de lumière pour nous montrer le chemin. Il faut cependant la chercher. Autour de soi et en soi. La vérité et l'amour doivent vaincre la haine et le mensonge. Avoir peur de rêver, si nous voulons que l'irréel devienne réalité. Les 12 étoiles de l'Europe me font croire que la vie sur Terre pourrait être meilleure, si seulement nous osions de temps en temps lever les yeux vers les étoiles.
C'est un homme qui est rempli d'idéaux. Il croit dans la démocratie. Il est convaincu que la démocratie est la seule voie possible. Mais il se rend compte qu'on vit dans un monde aliéné. Il le dit souvent que les grandes sociétés constituent une miniature de sociétés totalitaires. Mais je crois que son espoir de voir la démocratie comme un processus et pas comme un état de lieu, c'est quelque chose qui l'inspire toute son activité politique. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle il va se représenter, encore une fois, au poste de président tchèque, alors qu'il y a déjà une très forte opposition contre lui, parce qu'il croit que son œuvre n'est pas achevée.
Xavier Galmiche, Václav Havel avoue avoir un très grand regret. Il disait « Je rêvais
d'un état qui serait un état de l'esprit.
Effectivement, c'est une république de l'esprit. C'est-à-dire, c'est peut-être une vue de l'esprit. C'est une sorte de schizophrénie incroyable entre une culture qui reste debout, des livres magnifiques, qui se font, on ne sait pas pourquoi, enfin, on ne sait pas comment, plutôt. Et vraiment des choses incroyables, comme des fenêtres, hein, comme si la couverture des livres vous emmenait dans des mondes fictifs formidables, merveilleux, dans un monde social qui est devenu d'une grande, grande vulgarité, et effectivement le spectacle permanent de la lâcheté et de la corruption. Cette contradiction, c'est quasiment insupportable.
Je fuis de plus en plus. Je fuis même l'écriture. Et pas seulement elle, je fuis les gens, la politique. De quoi ai-je peur? Difficile à dire.
Il aimait ironiser sur ceux qui planifient et qui pensent qu'il y a des lois de l'histoire, que l'histoire a un sens, que ça nous mène quelque part, etc. Sur les ceux qui pensent voilà, détenir les clés, l'histoire, les lois de l'histoire et qui pourraient prédire ce qui est possible, qui ont des modèles pour tout. Non, il y a les grandes surprises de l'histoire. Il en a vécu quelques-unes. Celle de 89 était bien entendu la plus importante pour lui et pour le pays, et peut-être aussi plus largement, parce qu'il a représenté tout le changement en Europe de l'Est, je dirais, de tous les hommes politiques issus de 89. C'est le seul qui soit resté. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, 89, qu'est-ce que ça représente pour vous? Václav Havel, Prague, la révolution de velours. Ça a quelque chose à voir avec ce lien particulier entre les hasards de l'histoire et quelque chose qui a été un parcours, une œuvre et la capacité de l'incarner à un moment donné.
Je descends dans la cuisine. Je mets de l'ordre, j'écoute la radio, je fais la vaisselle. Toutes mes affaires sont à leur place, rien ne dépasse. Dans les vases, il y a des bouquets de fleurs, comme si j'attendais une visite. Mais de qui ?
Le 23 décembre 2011, en marge des funérailles officielles de Václav Havel, les Plastic People, Suzanne Vega et de nombreux amis lui rendent un dernier hommage au Café Lucerne. Son frère Ivan, Andrei Krop, metteur en scène, Dana Nemtsova, signataire de la charte 77, Anna Fraimanova, conservatrice de la bibliothèque Havel, Vladimir Hanzel, secrétaire personnel et Jacques Roupnik, conseiller du président Havel, Yann Roubech, traducteur, Xavier Galmiche, professeur et Jean-Gaspard Palenicek, directeur adjoint du Centre culturel tchèque. Les lettres et les mémoires de Václav Havel ont été lues par Laurent Lederer sur les rythmes effrénés des Plastic People. Traduction Eva Yetelova, Jan Zimmermann, Alice Taberi et Sophie Tellière. Voix Anne Kobilac, Cyril Baer et Gilles Davidas. Attaché d'émission Laurence Genepin. Enregistrement et mixage Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf et Charlotte Roux.